Allô, c'est Sylvain dans ta radio. Le Prix du Gros est fier de commanditer et surtout de féliciter Michel Villeneuve pour l'ensemble de sa carrière en Formule 1.
Catherine Le Matin. Voici Michel Villeneuve. Que la mort ici se
lève. Salut Michel.
Bonjour Catherine.
Michel.
On
se disait Serge et moi avant le début de l'émission, c'est Serge qui est arrivé avec ça. Il dit, Catherine, faut-tu qu'ils travaillent les joueurs du Canadien pour en gagner une, hein?
Il a jamais aussi bien dit,
c'est
ce
vrai.
Serge. Tu regardais hier, il y avait deux philosophies différentes.
Ouais.
Des joueurs différents. Tu voyais les joueurs du Canadien, là, des fourmis, travaillaient, ça patinait, échappaient de mise en échec, tournaient de bord, une petite passe, trois, quatre stepettes, une grimace, parandelle se rendait au filet. Mm. Du côté de Columbus, ça partait ma petite fille avec la rondelle, puis ça patinait comme des trains, puis ça allait jusqu'au filet, puis ça prenait des tirs incroyables sur Carey Price. D'ailleurs, Carey, j'aurais aimé ça que quelqu'un lui pose la question, est-ce que c'est le premier match dans ta vie que tu te souviendras pas de quelle façon t'es arrêté? Ça va pas de maudit bon sens. Pauvre lui, là, à épiler. Moi, hier, là, je sais pas s'il y avait des bleus sur le cœur après la partie, mais il me semble que chaque lancé pesait une tonne.
Oui, c'est vrai.
Qui venait à 100 000 à l'heure. Josh Anderson, hier, là, ça, où je sais qu'ils ont sorti ça, cette affaire-là, il rentrait à l'aile des lancers puissants à courte distance. Carey, qui est habitué de les absorbe tous, avait de la misère à les contenir. Il y a eu des buts marqués sur des retours de lancer. Écoute, le Canadien a gagné hier un match qu'il aurait dû perdre. Mais dans une saison, ça s'égalise, là.
Ouais.
Mais ils ont été chanceux de s'en tirer avec une victoire hier. Heureusement qu'on n'a pas vu le jeune Dubois hier dans cette partie-là. C'était déguisé en Drouin, en Jonathan Drouin. Donc, on n'a pas pu apprécier son talent. Panarin n'était pas là.
Non.
D'ailleurs, écoute, le show de l'année, c'est John Tortorella qui l'a donné avant la partie. Je sais pas si t'as vu quelques extraits de sa conférence de presse.
Ben, j'ai pas vu, mais c'est les gars qui m'ont fait un résumé ce matin. Serge, on serait-tu capable de les retrouver? Évidemment, c'est en anglais, là, mais je serais curieux.
Mais ça vaut 100$.
Ça vaut 100$, en effet.
Hey, Serge, faut que tu trouves le bout où il explique pourquoi Anne-Thierry Panarin n'est pas en uniforme, parce que tu sais que du côté d'Ottawa, on a décidé que Matt Duchesne ne jouerait pas pour mettre sa santé en danger jusqu'à temps qu'il soit échangé. Puis on s'est dit, les Jackets de Columbus font la même affaire.
Oui, mais c'est pas ça.
Et John Tortorella n'a pas la langue dans sa poche. Lui, là, je pense que même Pat Burns, à son meilleur, était un enfant d'école.
C'est peu dit.
Il y a une façon de raconter. Avant de parler de Panarin, il a parlé d'Anthony Dutler. Il dit,
oui.
Il comprend. Ou il comprend rien, ou il veut pas comprendre.
Ouais,
on essaye de lui montrer à jouer au hockey, puis c'est, je sais pas s'il y a une bine entre les deux oreilles ou quoi, mais il est pas capable d'apprendre. Fait que aller à l'école de John Tortorella, c'est aller à la dure.
Ouais.
Si t'apprends pas là, t'apprendras jamais. Et tout le monde se demande, c'est un fou? Non. Tous ceux qui ont eu du succès, parlez de John Tortorella, Martin Saint-Louis. Parlez-en maintenant à Pierre-Luc Dubois. C'est des joueurs qui a fait sortir de leur coquille et qui sont devenus des joueurs extrêmement importants, des superstars dans la Ligue nationale. Chapeau à John Tortorella. Mais hier, c'est un extrait d'anthologie qui est livré aux journalistes parce qu'il leur parlait une heure avant le match hier, parce que les Jackets étaient rentrés tellement tard à Montréal qu'on n'avait pas tenu de séance d'entraînement ni rencontré les journalistes dans l'avant-midi. Donc, il a choisi de faire ça avant le match d'hier. Est-ce que notre ami Serge a trouvé ça?
Il est en train de nous chercher ça. On va enchaîner avec d'autres sujets, puis on y reviendra à la fin, Michel.
Bon, je veux dire une chose. Hier, c'est Marc Bergevin qui va avoir un beau sourire après la partie hier, parce qu'il s'est dit, « Hey, les deux gars qui ont fait la différence hier soir, ces deux gars, je suis allé chercher cet hiver.
Ouais. »
Max Domi et surtout Thomas Tatar. Et dans les deux cas, non seulement ça a été des bonnes acquisitions, mais c'est déjà fait dans le cas de Domi qui connaît la meilleure saison de sa carrière dans la Ligue nationale.
Mm-hmm.
Et Thomas Tatar est en train de connaître sa meilleure saison à vie dans la Ligue nationale. Et moi, je te dirais, si j'avais à voter pour un joueur, parce qu'il faut que tu parles de régularité dans une saison. Si tu veux parler d'un joueur qui a été le leader chez le Canadien du premier au dernier match, mon vote irait du côté de Tatar parce que à chaque partie, il s'est présenté. Lui, et Brandon Gallagher. Et de les voir sur le même trio, il y a quelque chose de rafraîchissant. Tatar patine. Hier, là, il a décidé de se transformer en joueur des Blue Jackets. Il a pris la rondelle dans son territoire, puis hop, une stepette était de rendu l'autre bord. Il avait réussi quasiment à se faufiler seul vers le gardien de but. Il sort des trucs de magie comme ça. Il est toujours, c'est pas le plus gros Thomas Tatar, mais il est toujours à l'entour du filet. Il mange pas autant de coups que Gallagher, parce que tout le monde s'occupe de Gallagher. Lui, il en prend moins. Mais de la façon dont il se comporte sur la patinoire, c'est un exemple. Et je pense que d'avoir un GM qui voit ses deux acquisitions majeures au cours de l'été connaître en même temps leur meilleure saison de la carrière, on peut dire que Bergevin a effectué un coup de maître.
Ouais, ça, là-dessus. Oui. Non, c'est, en fait, c'est juste que Serge a retrouvé l'extrait de John Tortorella.
Ah, il faut écouter
c'est
ça.
C'est très
descriptif, les gens vont rire.
Là, c'est en anglais, évidemment. Donc, l'état
on fera la traduction après.
Je vais te laisser ça. Allons-y.
Bon, il n'y a pas de problème.
He's sick as a dog. Yes, he's very sick. That's why he's out. I didn't ask him last night. Today, I was told he's sick, not eating, puking. You want me to go into the whole tire tread as far as what happened today with him so we can get that speculation done with as far as that he's going to be moved? He shit his pants, he was puking, he was doing everything. So,
bon. Bon, comment on résume ça poliment à la radio?
Ben, je veux dire ça, je vais juste traduire, là, comme dans Spot Caillou, je vais juste traduire les propos de John Tortorella. Il dit, il est malade comme un chien, il a vomi toute la journée, puis il a chié dans ses culottes.
C'est pas mal ça.
Ben, c'est ce qu'il vient de dire, les chiens d'un espèce. C'est lui qui l'a dit, il dit, voulez-vous avoir d'autres détails sur sa journée?
Ah, va être correct.
Ben,
c'est John Tortorella.
Ben, mais écoute, là il s'entend parce qu'il faut bien expliquer le contexte. Parce que je sentais qu'il y a des journalistes qui voulaient cuisiner un tout petit peu.
Ben oui.
Pour lui faire dire qu'eux autres aussi, ils protégeaient Panarin pour l'échanger. Puis il dit, c'est pas le cas. Il dit, c'est ça, cette live.
Ah, c'est très clair. OK.
Non, écoute, là, honnêtement, là. Puis il n'y a rien de, ma parole, je prendrai pas 56 détours. C'est ce qu'il a dit. Puis il pouvait pas mieux illustrer.
En effet.
Ce qui s'est passé dans la journée de Panarin. Okay. Donc, des fois, là, il faut dire les choses comme elles le sont.
Ouais, ben, en tout cas,
puis c'est ce que
Panarin. Ça a été dit.
Puis, ça a été dit, je l'ai traduit. Excusez-moi, mais c'est mon rôle de traducteur.
C'était ça. Hey, Michel, il nous reste un petit peu de temps. Je veux qu'on parle un peu de baseball. Quel contrat, dans un petit marché en plus.
Dans un petit marché comme celui des Padres de San Diego. Écoute, jusqu'à maintenant, c'est pas encore confirmé.
Ah non,
le contrat 10 ans, pas officiellement, parce que là, il faut qu'il passe des examens médicaux, puis tout le tralala. Les propriétaires des Padres voulaient pas trop se mouiller. 10 ans, 300 millions, c'est le plus gros contrat signé par un athlète professionnel depuis l'ère de l'autonomie. Il y a même une clause qui va lui permettre, dans 5 ans, de sortir de ce contrat-là.
On parle de Machado,
de profiter encore de son... de Junior Machado. Ouais. Manny Machado, qui va lui permettre, dans 5 ans, de redevenir joueur autonome complètement. Sauf que pour un petit marché comme San Diego, on a perdu les Chargers à Los Angeles dans la NFL. À San Diego, là, Il fait beau.
Mm-hmm. Ouais.
Il fait beau.
Ouais, oui.
Mais il se passe pas grand chose, là. C'est la ville des retraités par excellence aux États-Unis. C'est encore pire que la Floride. Mais les deux propriétaires qui sont là ont les poches bourrées d'argent, puis ont décidé de faire quelque chose pour leur communauté. Puis ils ont décidé de ramener leur club de baseball à l'avant-plan. Parce qu'il faut dire, les Padres, c'est un petit peu, ce sont des petits cousins des Expos. Ils sont arrivés à la même année lors de l'expansion du baseball majeur. Ils n'ont jamais gagné la Série mondiale. Ils sont allés deux fois en Série mondiale. Mmh. On se rappellera de quelques-uns de leurs grands joueurs. Nate Colbert, par exemple. Tony Gwynn. Randy Jones. Dave Winfield. Trevor Hoffman. Ils ont eu des joueurs vedettes, mais qui ont toujours évolué dans l'anonymat. Parce que, tu sais, qui parle de San Diego? Honnêtement,
non, mais je le sais. Mais c'est-tu quoi, Michel? Ma question est en lien avec ça. Parce que tu regardes leur fiche l'année dernière, à part les Marlins, il n'y a à peu près personne qui a fait pire. Pourquoi ils signent avec San Diego? Tu sais, c'est pas une équipe gagnante actuellement, là.
Ben, c'est pas compliqué. 300 millions.
Oui, mais... OK, oui. Mais... Non, mais ce que je veux dire... OK, je vais recommencer.
Il y a personne
j'ai mal
qui voulait y offrir. Ben, lui, là, il était un petit peu... C'est la même chose que Bryce Harper. Il pensait, aux autres, là, que toutes les équipes allaient se déculoter pour les signer.
C'est pas le cas.
Puis Bryce Harper attend encore. Il avait refusé, lui, quasiment la même somme des Nationals de Washington. Il est toujours bien pas pour retourner à leur porte et leur dire, ben écoutez, Saviez-vous que votre offre avait de l'allure?
Fait
qu'il y a seulement une équipe qui s'est manifestée.
Okay.
Ce sont les Padres de San Diego. Puis comme coup de Jarnac, tu peux dire, hein, quoi? Les Padres qui offrent 300 millions,
ouais.
ils ont une jeune équipe, ils ont quelques jeunes de talent. Ils réussissent, tu sais, ils essayent à chaque année, mais ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les spectateurs qu'il faut. Alors, ils donnent un grand coup des propriétaires, ils ont dit, cette fois-là, ça marche pas, mais on fermera ça, puis on repartira ça sur un autre nom.
OK. Bon, mais, okay, fait, dans le fond, la seule offre qu'il y a eu, c'est celle-là.
C'est là, il y en a eu peut-être des moins importants.
Oui, c'est ça.
Mais tu peux pas te dire, bon, j'irai pas à San Diego, mais honnêtement, là, il mouille jamais, il fait beau, c'est tranquille. Je peux avoir une belle fin de carrière, puis je vais empocher, puis je continue à faire ce que j'aime.
Ah, okay.
Why not peanuts?
Ah, c'est y a ça. OK. On s'en parle demain, Michel.
Fait que, si tu as besoin de moi comme traducteur dans les prochaines journées, tu vas juste me le demander.
Ça va bien, Michel, je te remercie. Ça va bien. Bon, merci de ton offre. Ton offre est refusée.
Je pourrais te décrire mes journées des 4-5 derniers jours.
Ça va être correct, ça.
Ça va être correct,
ça nous intéresse
merci.
À peu près pas. OK, salut, à demain.
Pardon, madame. Vous êtes indépendant.
Salut, bye. Absolument, salut, bye-bye. 7h53.